Chapitre 18. Le même soir, une heure ou deux avant l'instant où Job et Marguerite avaient quitté Mary, les trois demoiselles Carson étaient assises dans le salon de leur père, qui, de son côté, couché mollement dans un bon « comfortable », dormait à la salle à manger. Mistress Carson était souffrante, ainsi qu'il arrivait toujours, quand rien ne la forçait à secouer ses misères, et ce jour-là précisément, elle se donnait le luxe d'une migraine qui la retenait dans sa chambre. Elle était vraiment malade, mais de cette oisiveté de corps et d'esprit où elle languissait depuis qu'elle était riche. Trop peu éclairée pour jouir des avantages de la fortune et pour profiter de ses loisirs, elle se serait mieux trouvée d'avoir à faire l'ouvrage d'une de ses femmes que de tous les terres et de tous les sels dont elle avait pris l'habitude et qu'elle consommait inutilement. Frotter les meubles, secouer les tapis, sortir au vent frais du matin sans tout cet attirail de châles, de boas, de manteaux, de bottines fourrées, de voiles épais qu'elle mettait pour aller prendre l'air dans une voiture hermétiquement fermée. Lui eût valu 100 fois mieux que tous les soins et toutes les précautions au milieu desquelles sa santé s'étiolait. Ces trois filles étaient donc seules dans un salon élégant, bien chauffé, bien éclairé, où comme presque toutes les jeunes ladies qui occupent un rang élevé dans le monde, elle ne savait trop que faire en attendant que le thé vînt couper le soir. Les deux aînées, qui avaient passé la nuit au bal, s'endormaient l'une en feuilletant les essais d'Emerson, la cadette en cherchant dans un paquet de romances quelques nouveautés qui pût lui plaire. Amy, la plus jeune et la plus occupée, copiait quelques lignes de musique inédites. L'air tiède était chargé de parfums qui s'échappaient de la serre voisine. Le timbre de la pendule résonna tout à coup et réveilla celle des trois sœurs qui dormaient complètement. « Quelle heure est-ce » demanda-t-elle. « 8 heures, » répondit la plus jeune. « Oh, chère, comme je suis lasse. Henry est-il rentré ? Le thé réveille toujours un peu. N'es-tu pas brisée de fatigue, Hélène ? Oui, je m'endors et n'en peux plus. C'est toujours ainsi le lendemain d'un bal. On est vraiment bon à rien. » Je suppose que c'est la veillée qui vous épuise. Et comment faire? On dîne à 6 heures. On ne peut guère arriver avant 9 heures. Il faut que la soirée s'anime. Elle est toujours bien plus agréable après le souper qu'avant. C'est vrai. D'ailleurs, je suis trop lasse ce soir pour essayer de réformer le monde. Amy, qu'est-ce que tu copies là? Ce petit air espagnol que tu chantes. Tranquiera. Pour qui donc? Henry me l'a demandé. Pour Miss Richardson, du moins en ce qu'il m'a dit. Pour Jane ? S'écria Sophie, comme si cela venait confirmer un soupçon qu'elle avait dans l'esprit. Crois-tu que les attentions d'Henry pour elle aient quelque chose de sérieux ? Demanda Hélène. Je ne sais pas, seulement j'observe et je fais des conjonctures. Et toi, qu'en penses-tu ? Mon Dieu, pas grand-chose. Henry aime à passer pour être bien avec la reine du bal. Il suffit qu'une jeune fille soit recherchée par un autre pour qu'il voltige autour d'elle et tâche de faire croire qu'il est dans ses bonnes grâces. Je n'ai pas remarqué qu'il en fût autrement quant à Jane Richardson. Mais je crois qu'elle y attache une toute autre importance. Regarde-la quand Henry s'approche d'elle, comme elle rougit et semble heureuse. Il le voit, et j'imagine qu'il en est enchanté. Je n'en doute pas, mais je suppose qu'il serait tout aussi ravi de tourner la tête à n'importe quelle autre jolie femme, et je ne crois pas le moins du monde qu'il ait de l'amour pour Jane, quel que soit d'ailleurs le sentiment qui lui est inspiré. « Eh bien, il a beau être mon frère, » s'écria Sophie, « je n'en dis pas moins que c'est une indignité. Plus j'y pense et plus je suis sûre que Jane croit qu'il l'aime sérieusement. C'est lui qui le lui a persuadé. Juge un peu quand il cessera de faire attention à elle. » « Ce qui arrivera dès qu'une jeune fille plus jolie apparaîtra au bal, » interrompit Hélène. « Quand il cessera de faire attention à elle, » reprit Sophie. Elle aura le cœur brisé jusqu'au moment où, devenant cruelle à son tour, elle imitera celui qui l'a trompée et ne sera plus qu'une coquette, comme Henry n'est qu'un roué. « Je n'aime pas que tu parles ainsi d'Henry, » dit Amy en levant les yeux sur sa sœur. « Il me plaît encore moins d'avoir sujet de le dire. Henry est un bon frère que j'aime de tout mon cœur, mais il est vain de sa personne et je ne crois pas qu'il sache le mal. Je dirais plus le crime que la vanité pourrait lui faire commettre. » Hélène bâilla. Oh, je t'en prie, dit-elle. Sonne pour qu'on apporte le thé. D'avoir dormi après le dîner, ça m'a donné la fièvre. Tu as raison. Je ne sais pas d'ailleurs ce qui empêche qu'on le serve. Et Sophie tira vivement la sonnette. « Le thé, Parker !» dit-elle au valet de chambre qui entrait dans le salon. Elle s'occupait trop peu des autres pour remarquer les traits et la physionomie de Parker. Et pourtant les lèvres serrées, la pâleur, les yeux fixes du pauvre homme étaient bien faits pour frapper quiconque eût regardé son visage. Les trois sœurs mirent de côté leur musique et leurs livres, et elles disposaient la table pour recevoir le thé lorsqu'on ouvrit la porte une seconde fois. Mais au lieu d'être Parker, ce fut Nourrice qui entra, celle qui avait élevé tous les enfants, qui était restée leur femme de chambre, leur gouvernante, qui remplissait dans la maison les fonctions de femme de charge et qui avait gardé son premier nom de nourrice. Elle venait quelquefois au salon sans y être demandée, pour y chercher une chose ou l'autre, et sa présence n'étonna point les jeunes filles qui ne s'inquiétèrent même pas de ce qu'elle était venue faire. Mais nourrice avait besoin d'être remarquée, besoin qu'on lût sur son visage ce qu'elle n'osait pas dire. Elle toussa. Un sanglot expira sur ses lèvres. « Qu'as-tu, nourrice ?» dit la plus jeune des sœurs. « Est-ce que tu es malade ?»« Est-ce maman qui est plus souffrante ?» demanda vivement Sophie. « Parle, nourrice, parle donc !» s'écrièrent-elles toutes les trois, en entourant la pauvre femme qui essayait en vain d'articuler un son. « Mes chères demoiselles, mes chères filles !» Et ses larmes l'empêchèrent de continuer. « Oh, qu'y a-t-il, nourrice? Il vaut mieux tout nous dire. Parle donc. Mes pauvres enfants. Je ne sais comment faire, si vous saviez. Mr. Henry vient d'être rapporté à la maison. Rapporté? À la maison? » Et baissant la voix comme si elle eût peur que ses murs, ses meubles, tout ce confort réuni pour embellir l'existence, n'entendît sa réponse, elle ajouta. « Oui, rapporté, mort. » Amy saisit le bras de sa nourrice, la regarda fixement et s'évanouit. Sophie se couvrit les yeux, cherchant à comprendre ce qu'elle venait d'entendre, pendant qu'Hélène cachait sa tête dans les coussins de l'ottomane pour étouffer les cris qu'elle ne pouvait retenir. Et nourrice attendait. Elle n'avait pas tout dit. « A-t-on envoyé chercher le médecin ?» murmura Sophie d'une voix que l'émotion étranglait. « Il est possible qu'il y ait encore moyen de le secourir. Vite, nourrice, vite !» Et Sophie et Hélène s'élancèrent vers la porte. « Non, mes enfants, tout est fini. J'ai envoyé chercher le docteur, » dit la nourrice en arrêtant les deux jeunes filles. « J'ai fait tout ce que j'ai pu. » « Et quand l'a-t-on rapporté ?» demanda Sophie. « Tout à l'heure. » « Un peu avant que vous sonniez pour le thé. »« Comment cela s'est-il fait? Où l'ont-ils retrouvé? Il se portait si bien, il était si beau, si fort. Es-tu bien sûr qu'il soit mort ?» Elle voulut sortir. Nourrice s'y opposa de nouveau. « Écoutez-moi, Miss Sophie, » lui dit-elle. « Votre père est près de nous. Il ne sait rien encore. C'est vous qui devez m'aider à lui dire ce malheur. » Sophie voulait parler. Mais ses lèvres s'agitaient vainement. Il a été tué d'une balle ce soir, comme il rentrait, en longeant Turner Street. Miss Sophie, répondez-moi. Votre pauvre père, il faut pourtant le lui dire. Allez-y, les hommes l'attendent. Il dormait dans la salle à manger. Miss Sophie, dites-le-lui tout doucement. Sophie se laissa conduire vers la salle où était son père. Mais quand elle fut près de la porte, « Oh, je ne peux pas !» s'écria-t-elle. « Je ne peux pas, nourrice. Que lui dirais-je »« J'entrerai avec vous, Miss Sophie. Du courage !» Et Sophie ouvrit la porte. Son père dormait toujours. La lumière adoucie des lampes tombait sur ses traits vénérables et faisait ressortir ses cheveux blancs sur le maroquin rouge du fauteuil où s'appuyait sa tête. « Papa !» dit-elle doucement. Mais il ne l'entendit point. « Papa » répéta-t-elle plus fort. « Est-ce que le thé est servi ?» demanda-t-il, les yeux toujours fermés. « Non, papa, mais quelque chose d'affreux, d'horrible est arrivé. » Il cherchait à s'éveiller et n'entendit pas ou ne comprit point ses paroles. « Mais Henry n'est pas rentré, » dit nourrice.
« Henry ?» « Oh non, je ne l'attends pas encore. Il a dû se rendre à la réunion des patrons relativement à cette grève.
Mais qu'as-tu donc à me regarder comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive, Sophie?
Oh, papa, il est revenu au contraire, répondit-elle, tout en larmes.
Tâchez au moins de vous entendre, reprit-il impatienté. L'une dit qu'il est rentré, l'autre qu'il n'est pas revenu. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Est-il tombé de cheval? Est-il... Réponds-moi donc, enfant.
Non, papa, ce n'est pas une chute.
Mais il est blessé, grièvement peut-être.
A-t-on fait venir le médecin?
Il s'était levé, Sophie lui prit la main.
Oui, dit-elle, mais j'ai bien peur que ce ne soit inutile. Et que...
Il regarda sa fille et comprit enfin que son fils unique était mort. Il retomba sur son fauteuil et posa sa tête sur la table qui trembla sous la violence de ses sanglots. Sophie s'approcha et passa un de ses bras autour du cou de son père.
Ah, tu n'es pas Henry, lui dit le vieillard en la repoussant. Où est mon fils? Où est-il?
Demanda le pauvre père qui se leva tout à coup.
Dans la salle des domestiques, lui répondit Nourrice. Deux policemen et un homme l'ont rapporté. Il voudrait parler à monsieur, si toutefois monsieur peut les entendre. Retournez auprès de vos sœurs, Miss Sophie,
ajouta-t-elle, et suivant Mr. Clarkson, elle entra avec lui dans la salle où sur la table gisait le corps de l'infortuné jeune homme. Les policemen étaient auprès du feu tandis que les domestiques regardaient les restes de celui qui avait été leur maître. Un ou deux versaient des larmes. Deux ou trois autres s'entretenaient à voix basse, mais tous reculèrent en voyant entrer Mr. Clarkson qu'ils saluèrent avec respect. Il s'approcha et contempla longtemps avec tendresse le visage de son fils, puis s'inclina vers lui et baisa ses lèvres que la mort avait à peine effleurées. Il le regardait toujours immobile et sans larmes.
« Qui l'a tué ? »
murmura-t-il enfin. Les policemen s'approchèrent, et l'un des deux raconta qu'ayant entendu le bruit d'une arme à feu dans Turner Street, il y était accouru, qu'au moment où il arrivait à la porte du jardin dont Mr. Henry avait la clé, un homme s'était enfui, mais que la nuit était si noire qu'on ne distinguait rien dans l'ombre, et qu'en avançant, il avait été surpris de trouver le corps d'un gentleman en travers du sentier, qu'à son appel, un de ses camarades était venu, et qu'à la lueur d'une lanterne, ils avaient reconnu celui qu'on avait tué, qu'il était mort quand on était arrivé, et probablement sous le coup même, sans avoir fait un mouvement, ni proféré une plainte, que le rapport du crime avait été fait immédiatement au chef de la police, et que deux agents étaient restés à la place où le meurtre avait été commis, pendant que de toutes parts, on cherchait l'assassin. Mr. Clarkson avait écouté attentivement le policeman sans détourner les yeux du visage de son fils.
« Donc a-t-il été frappé ?»
demanda-t-il quand l'agent eut terminé son récit. On écarta les boucles épaisses qui couvraient le front d'Henry et l'on montra une tache d'un bleu livide, le trou de la balle que les chairs avaient fermé en se rapprochant et qui se voyait à la tempe gauche.
« Mortellement visé, » dit l'agent, « et cependant la nuit était bien noire. »«
Il a fallu que ce fût à bout portant, » reprit l'autre policeman, « et que l'assassin l'eût entre le ciel et lui. » Au même instant, quelqu'un entra dans la salle. C'était Madame Carson, la pauvre mère. Elle avait entendu un bruit inusité dans la maison et avait dit à sa femme de chambre d'aller voir d'où cela pouvait provenir. Mais soit que la curiosité eût retenu la fille de service, soit que cette dernière n'eût pas osé venir rendre compte à sa maîtresse de ce qu'elle avait appris, Madame Carson, ne recevant pas de réponse, était sortie de chez elle et, guidée par le bruit des voix, était arrivée jusqu'à la salle dont elle venait d'ouvrir la porte.
« Emmenez-la, nourrice !» dit aussitôt Mr. Carson, « et priez Miss Sophie d'aller auprès de sa mère. »
Pour lui, rien ne semblait pouvoir l'arracher de cet endroit où gisaient les restes de son fils. Pourtant, lorsque le chef de la police, accompagné d'un médecin, après avoir constaté la mort du jeune homme et le meurtre qu'il avait causé, demanda au malheureux père quelques instants d'entretien, Mr. Carson le conduisit dans la salle à manger, dont il ferma la porte et le fit asseoir en face de lui.
Sur la table était encore le verre à moitié plein où Henry avait bu quelques heures auparavant. Le pauvre père regardait cette place vide, et sortant tout à coup de sa rêverie douloureuse, ce fut lui qui le premier rompit le silence. « Vous avez probablement entendu dire que je suis riche, monsieur, » dit-il d'une voix ferme au chef de la police, qui fit un signe affirmatif. « Eh bien, monsieur, je donnerai la moitié de ma fortune. S'il le faut, je la donnerai tout entière pour que justice soit faite du meurtrier de mon fils. » « Soyez persuadé, monsieur, que tous nos efforts tendront à ce but et que nous ferons tout au monde pour obtenir plein succès. Mais, assurément, l'appât d'une honnête récompense ne peut que rendre plus facile et plus prompte la découverte de l'assassin. Déjà, c'est ce que je voulais vous dire, nous avons quelques indices du meurtrier. Et l'un de mes hommes que j'ai amené jusqu'ici a trouvé près du lieu où le crime s'est effectué un fusil que, probablement, l'assassin aura jeté dans sa fuite pour se débarrasser d'un objet qui pouvait le compromettre. Je ne mets donc pas en doute qu'avant peu la police ne parvienne à s'emparer du misérable qu'elle cherche. « Qu'appelez-vous une honnête récompense ?» demanda Mr. Carson. « Mais 400 à 500 livres seraient plus qu'il ne faudrait pour tenter un complice de dénoncer le coupable. Mettez 1000 livres, monsieur. Probablement que c'est encore un de ces damnés fileurs, un de ceux-là qui font grève. » Je ne crois pas, monsieur. L'agent dont je vous ai parlé tout à l'heure a relaté dans son rapport à l'inspecteur qu'il y a de cela quelques jours ce fait important qu'il avait dû s'interposer entre monsieur votre fils et un jeune ouvrier, qu'à son costume il avait reconnu pour appartenir aux fonderies, que cet homme avait renversé Mr. Carson et se fut porté vraisemblablement à des violences ultérieures si le policeman n'était pas intervenu entre lui et sa victime. L'agent avait voulu se saisir de l'ouvrier sous prévention d'attaque, mais monsieur votre fils s'y était opposé, et ne l'avait pas permis. « Je le reconnais bien là. Noble cœur !» murmura le malheureux père. Mais après le départ de votre fils, l'ouvrier n'a pas craint de lancer contre lui de violentes menaces, et chose assez curieuse, cette querelle avait lieu précisément à l'endroit où le meurtre fut commis, dans Turner Street, près du mur qui longe votre jardin. « Mon père, » dit Sophie, qui entrait en cet instant, « venez, je vous en prie, venez parler à ma mère. Allez auprès d'Henry, qu'elle ne veut pas quitter, et je crois vraiment qu'elle n'a plus sa raison. » Ils montèrent rapidement dans la chambre de Madame Carson, où celle-ci avait fait transporter son fils, qui, à la lueur incertaine d'une chandelle de cuisine, avait l'air d'être endormi, tant son visage était calme. Sa mort avait été si rapide que, n'ayant pas eu d'agonie, ses traits avaient conservé leur beauté, d'autant plus saisissante que la couleur, en s'effaçant, laissait mieux apparaître la pureté des lignes. Sa mère était assise auprès de lui et souriait en le regardant. Elle lui tenait la main qu'elle caressait doucement, comme elle faisait autrefois quand il était enfant. « Je suis bien aise que vous soyez monté, » dit-elle à son mari, sans perdre son sourire. « Notre Henry, qui m'a plaisanté, veut me faire croire qu'il dort et qu'on ne peut pas l'éveiller. Regardez bien, il m'entend et ne peut pas s'empêcher de rire en voyant que je l'ai deviné. « Ne le vois-tu pas, Amy ?» dit-elle en se tournant vers sa fille, qui, agenouillée près d'elle, essayait de la calmer en baisant ses vêtements. « Il a toujours été si espiègle, » continua-t-elle, en s'adressant de nouveau à son mari. « Vous rappelez-vous quand il était tout jeune, et qu'il venait se cacher la figure sous mon bras, croyant n'être pas vu, et vous faire chercher bien longtemps ce qu'il avait pu devenir. Oh oui, toujours espiègle, Henry. » « Descendez. Venez avec moi, chère âme, » lui dit Mr. Carson. « J'ai besoin de vous parler. »« J'y vais, » répondit-elle en se levant. « Peut-être qu'après tout, le pauvre enfant est las et veut vraiment dormir. Couvrez-le bien, nourrice. Il pourrait s'enrhumer. On dirait qu'il a froid, » ajouta-t-elle après l'avoir embrassé. Pendant qu'avait lieu cette triste scène, le chef de la police avait pris une bougie et regardait les tableaux qui ornaient les murailles. Il s'était arrêté devant le portrait d'un jeune homme de 18 ans, en costume travesti, qu'il reconnaissait pour celui de la victime, lorsque Mr. Carson vint le retrouver, après avoir remis à ses filles le soin de veiller sur leur mère. « 1000 pardons, monsieur, de vous avoir laissé seul, » dit-il d'un air sombre. Et il reprit leur conversation au point où il l'avait laissé. Évidemment, la vue de sa femme, dont la douleur égarait la raison, avait encore augmenté chez Mr. Carson le désir qu'il éprouvait de poursuivre et d'atteindre le meurtrier d'Henry. Plusieurs policemen furent introduits et questionnés successivement, et lorsqu'au matin Mr. Carson reconduisait le chef de la police jusqu'à la porte de la cour, « N'oubliez rien, lui dit-il, je me fie à vous et à votre habileté. N'épargnez pas l'argent. La fortune aujourd'hui n'a plus pour moi d'autre valeur que de servir à l'arrestation du coupable. Faites afficher 1000 livres de récompense. Ajoutez-y ce que vous croirez convenable. Venez me trouver à toute heure de la nuit, aussi bien que pendant le jour. Tout ce que je vous demande, c'est bonne et prompte justice. Il faut que l'assassin soit pendu. Et demain, si la chose était possible. Mais dans tous les cas, avec les indices que vous avez déjà, la condamnation ne peut guère se faire attendre. C'est aujourd'hui vendredi. Le procès peut avoir lieu dans les premiers jours de la semaine. À moins que l'accusé ne demande l'ajournement, interrompit le chef de la police. On y mettra opposition. Je m'entourerai des meilleurs avocats. Je n'aurai pas de repos tant que vivra l'assassin. Comptez sur mon zèle, monsieur. Et l'agent en chef se dirigea vers la demeure du coroner pour s'entendre avec lui. Hélas, pour venger les torts dont il avait souffert, l'assassin avait désigné sa victime et lui avait arraché par un meurtre la vie que Dieu seul peut donner. Pour venger la mort de son fils, le vieillard à son tour n'avait plus qu'une pensée, qu'un vœu, le supplice du meurtrier dont il abhorrait le crime. La loi, il est vrai, sanctionnait son désir. Mais ce n'en était pas moins une vengeance. Au reste de nos jours, êtes-vous les adorateurs du Christ ou les disciples d'Alecto ?